All right, on est là. Salut, bon matin. Bienvenue sur les ondes de boulevard 102.1. Mon nom, c'est Yann Marceau. Son nom à elle, c'est Audrey Pinchot.
Hello.
Jusque là, je me suis pas trompé.
Non, ça va bien, on
c'est
est
bizarre.
Pas parti.
On dirait que je m'entends juste... Ah, voilà, je m'entends en stéréo. C'est pas mieux. Non, c'est ma voix.
C'est le même son, je veux pas te...
Mono ou stéréo, c'est la même affaire. Hein? C'est la même affaire. Comment ça va, ma belle Audrey?
Ça va super bien, bon, full en forme.
Tu t'es forcé un peu pour une fois, là?
T'as remarqué, je suis contente.
Ben oui.
Mais là, j'ai compris ton message, là.
Je me suis dit, elle s'en va-tu en procès?
J'ai un souper ce soir.
Ah, voilà.
C'est ça l'excuse.
Avec qui?
Avec Hello.
Puis tu t'habilles comme ça?
Avec Hello Derry.
Okay. Allez-vous dans un endroit chic ou ben vous allez chez Valentine?
On s'en va chez Bloom. Bloom Sushi, c'est des sushis vegan parce que moi, je suis allergique aux poissons fruits de mer.
Des sushis vegan?
Ouais. Okay. Ah, là, je sais, tu fais cette face-là, mais j'ai amené beaucoup de collègues, beaucoup d'amis là-bas qui sont pas sûrs pantoute.
Toi, t'es allergique aux fruits de mer?
Poissons et fruits de mer. Et okay. Ils font des reproductions, des goûts de crabe, de poisson, de tout ce que tu voudras.
Ouais.
C'est ce qu'il y a de plus près de ce que je peux pas manger, que j'ai ingéré, mettons.
Ah, ouais.
Puis honnêtement, c'est fascinant, il paraît.
Puis c'est sûr et certain qu'il n'y a absolument aucune trace de poisson à l'intérieur du restaurant.
Rien de rien. Okay. C'est fait vraiment tout avec des plantes.
Quand tu vas dans un restaurant, tu prends-tu la peine de le dire au serveur que tu es allergique à ci et à ça?
Ben oui.
Ouais. T'as-tu déjà eu du trouble? Est-ce que des fois, il y a eu de la contamination croisée qui a fait en sorte que t'es parti à l'emblée?
Ça m'est arrivé une fois dans un restaurant de Québec où j'avais pris un repas pour sortir, je vais le dire comme ça.
Ouais.
C'est un endroit où ils font des pokés. Là,
un repas pour sortir, je vais le dire comme ça. Tu veux le dire autrement?
Hein? Non, mais
prends ton temps. Tu le dirais comme...
C'est parce que je veux pas identifier la place.
Okay.
Mais c'est un endroit où tu pouvais manger des pokés, des toutes sortes d'affaires asiatiques. Là, puis il y avait eu un mélange parce que dans mon tartare de bœuf, il y avait un petit morceau de saumon. Fait que j'avais pas pu manger.
Ça veut dire qu'ils ont pris le même couteau.
Ben exactement les mêmes ustensiles. Mais ça, tu vois, j'ai de la misère. Au début, ça me rendait agressive, pour vrai. Parce que quand tu es allergique, tu comprends le danger. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que les gens qui n'ont pas d'allergie comprennent juste pas. Puis ils pensent pas. Puis je l'ai remarqué à un moment donné en allant manger chez quelqu'un qui faisait du barbecue. Puis, je veux dire, il y a un côté de la plaque où il faisait son poisson. Puis, ben moi, il fallait que je fasse que mes affaires éventuellement. Puis, les gens pensent pas, ils pensent au lavage de main, mais ils pensent pas aux ustensiles. Ils pensent pas que si tu mets ça dans la même assiette, au final, pour servir puis sortir ça du barbecue, il va y avoir une contamination croisée.
Mais moi, j'ai été.
C'est dur d'en vouloir.
Moi, j'ai été hyper brainwashed là-dessus, là. Tu sais, au départ, là, j'étais un peu comme ça. Ben là, c'est pas grave, là, ça cuit, là, les mêmes ustensiles, c'est pas grave. Après ça, je suis tombé dans la restauration. Puis après ça, je suis tombé dans des restaurants où ils faisaient vraiment attention. Je me permettre de le nommer parce que ce restaurant-là m'a marqué à tout jamais. Là. Le chef de l'époque, c'était Éric Darvaux. Puis c'était au Cosmos à Sainte-Foy. Okay. Puis moi, j'ai été suiteur. Puis après ça, j'ai été serveur au Cosmos pendant quelques années. Et quand il y avait quelqu'un qui était allergique, là, il n'y avait aucune chance à prendre. C'était de nouveaux outils qui avaient été nettoyés. C'était une nouvelle table de préparation qui était mise en place. Puis il n'y avait rien qui avait touché à de la bouffe avant. Rien.
Ben, pour vrai, on peut les saluer parce que ça, pour nous, c'est le paradis, les allergiques. Là. Puis ils n'ont pas le choix de te le dire, on ne peut rien garantir. Parce que maintenant, il y a des aliments sous vide ou des affaires avec lesquelles tu travailles qui viennent des usines, tu ne peux pas tout savoir.
Ouais.
Mais tu sais, juste de sentir quand tu es allergique que la personne devant toi s'en soucie et que ça fait une différence sur la confiance.
Ah non, moi, je commandais, puis des fois, tu sais, le Cosmos, à l'époque, là, dans les premières années du Cosmos, il y avait une file jusqu'à presque minuit, 1h du matin, dehors. C'était plus un resto nightlife avant que ça arrive à Québec. Là, c'était la place pour sortir au début des années 2000 à Sainte-Foy. Et je commandais, j'étais genre à 150 pieds d'Éric. Il y avait beaucoup de monde autour de nous autres, il y avait de la musique au travers de ça, puis je l'entendais gueuler. Allergie!
C'était
c'était vraiment pris au sérieux à l'époque. Puis j'ai jamais eu de problème. Toutes les années où j'ai travaillé là, j'ai jamais eu de problème avec des gens qui disaient « Hey, faudrait que tu appelles l'ambulance parce que ça va vraiment
pas. » Moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que, bon, c'est hot, là, le allergie, mais c'est parce que je trouve que c'est aussi une façon de dire que tu prends ça au sérieux. L'image du restaurant, c'est bon de savoir que tu fais attention.
À partir du moment où tu sais que par la bouffe, tu peux faire crever quelqu'un.
Mais oui.
J'ai déjà eu une blonde, même. Mais j'ai quand même résisté, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas grave. Ça a l'air qu'elle s'est améliorée avec le temps, qu'elle m'a dit. mais par la bouffe, tu peux tuer quelqu'un.
Absolument.
Bon, fait que si la personne n'est pas assurée, tu t'amuses
pas. Mais moi,
pas.
Mon chum a fait des sacrifices, là.
Ah oui?
Ben mon chum mange plus zéro poisson fruits de mer là. Chez nous, il peut pas y avoir une poêle qui a déjà tu sais.
Ouais, c'est parce qu'il veut frencher.
Aucun, ben puis il a raison.
Ouais.
Il a raison de vouloir frencher.
Elle vient de main, tu sais. En madame tailleur.
Hey, je me suis vraiment forcé, c'est rare que ouais, je mette des tailleurs. Non, mais il n'y a plus le choix parce que quand on s'est rencontrés, lui, il achetait des affaires, des fois, mettons, congelé à l'épicerie, là, des poissons panés et compagnie. Mm-hmm. Là, ça allait vite pour lui de mettre ça dans le four. Puis chez nous, il n'y a rien qui rentre d'ustensiles qui ont déjà servi à servir du poisson ou des fruits de mer ou rien de rien. Là.
C'est ça.
Fait qu'il n'y a pas le choix, lui, à un certain point, de faire des sacrifices. Ma mère a la même allergie, vraiment plus forte que la mienne. Puis elle, tu vois, là, quand on va manger chez des amis, nos amis les plus proches ou les membres de la famille ont des bacs avec Manon écrit dessus. Là. Puis c'est tout de la vaisselle, des ustensiles, des poêles, qui n'ont jamais touché à autre chose que quand nous, on va manger là.
Non, c'est ça. Moi, j'étais un peu mitigé par rapport à ça, mais j'étais très jeune quand je suis rentré dans la restauration. Mais à partir du moment où je suis rentré dans la restauration, ils ont comme tout enlevé les petites idées que j'avais. Ah, c'est des gens qui sont capricieux, puis tout ça. Puis ils m'ont tout bien montré les choses à faire. Puis voici, si tu fais pas cette affaire-là, ce qui peut arriver à la personne. Mm-hmm. Allergie au poisson, on peut vous tuer. Allergie aux peanuts, on peut vous tuer. Mm-hmm. Donc, on était bien entraînés là-dessus. Tellement que j'ai développé comme un genre de choc post-traumatique, là. Quand la blonde à la maison fait du poulet, je la regarde aller, là. Mettons qu'elle prend un poulet pas cuit, puis là, elle commence à travailler dessus avec des ustensiles.
Pour pas qu'elle prenne le même couteau pour couper autre chose, ben oui,
si raison. Je vois que, mettons, les ustensiles traînent 2-3 minutes, là, puis là, elle s'en va, puis elle revient faire d'autres choses, là, je regarde les ustensiles, puis tant aussi longtemps que ça n'a pas pris le chemin du lave-vaisselle, je quitte pas les ustensiles de vue. Salmonellose, là, ça se peut qu'après avoir mangé, ça se peut que tu passes un petit peu de temps aux toilettes.
Un mauvais quart d'heure.
Ceux qui sont... Hey, aidez-moi par texto 418-971-101. Il y a quelque chose dans le pain qui peut faire en sorte que vous puissiez avoir des malaises au ventre.
Mais le gluten.
C'est le gluten. Bon, les allergies au gluten. Ouais. On c'est pas une allergie, c'est une intolérance.
Exact.
Bon. Ben, il y en a qui prennent pas ça au sérieux, là. Il y en a qui disent, ah, ben non, gluten, c'est pas une allergie, là. C'est pas si grave que ça.
Veux-tu qu'on parle du lactose, Yann?
Mais c'est ça, allergie au lactose aussi, ça doit produire le même effet, là.
C'est pas facile. Ouais. Moi, je suis intolérante au lactose, ça n'est pas facile.
Ouais. Là où je suis plus ou moins à l'aise, c'est quand ça se ramasse dans les garderies, dans les écoles, là, parce qu'il y a une personne sur 1000 qui est allergique à quelque chose.
On interdit à tout le monde.
Ça, je suis plus ou moins à l'aise.
Je suis d'accord avec toi là-dessus,
mais c'est important d'informer la personne qui est allergique, notre enfant. C'est important de bien le former.
Puis les
éducatrices. Puis les jeunes aussi qui sont autour, qui côtoient ces gens-là, tu sais, qui sont hyper allergiques. Mais bref, je suis content de savoir que tu es toujours en vie puis que tu te prends ça au sérieux.
Bien, je suis chanceuse parce que j'ai même des proches qui prennent plus ça au sérieux que moi parfois parce que quand tu es allergique depuis toujours, des fois, tu deviens un peu nonchalant parce que tu sais où tu dois aller, pas aller, ce que tu dois commander, pas commander. Fait que moi, mon épipène, des fois, je l'oublie, je la traîne pas, je la laisse à la job. Tu sais, j'ai pas toujours le... J'en ai une ici au cas où parce qu'on partage un espace commun. Sais-tu comment utiliser un épipène?
Tu as
quelqu'un qui t'a éduqué là-dessus?
Tu prends la seringue, tu fous ça dans le cœur?
Dans le cœur, pas idéalement.
Ça, c'est de l'adrénaline, je pense.
Ça. Ouais, ben, c'est de l'adrénaline, l'épipène. Ouais. Mais tu mets pas ça dans le cœur, Yann, tu vas tuer l'individu.
Okay. Je vais laisser faire Max Larouche.
Tu mets ça dans la cuisse.
Cuisse!
Puis, gars, cours général de 5 secondes et quart pour tout le monde parce que ça peut vraiment vous servir. Là. Il y a des épipènes qui parlent aujourd'hui, là, mais ça coûte cher. Fait que les épipènes de base, tu as un bout orange, tu as un bout bleu. Quand tu vas l'enlever, c'est très bien indiqué quel bout tu prends dans la cuisse. T'en as qui ont des doubles doses aussi en passant. Là. Faites attention, vous mettez votre pouce.
Double dose pour double cuisse?
Oui. Attention pour pas. Pour pas vous piquer le doigt. C'est pas conseillé. Et là, tu prends un gros de cuisse que tu serres, là, un bon bout, là, un bon chunk. Là,
ouais.
Et tu varges dans la cuisse. Parce que l'aiguille, là, elle a une grosse circonférence. Il ne faut pas que tu y ailles doucement et tu la laisses là pour que le liquide se vide. Tu comptes 20 secondes.
20 secondes, OK. Ouais.
C'est la façon de faire.
L'adrénaline, c'est-tu dans le cœur comme dans les films, ça?
Non.
Non,
non, non tu fais pas ça. C'est vraiment, c'est des films, et il y a une raison pour laquelle ça s'appelle un film.
OK. Hey, c'est rare qu'on fait de l'actualité dans l'open mic, mais des fois, on n'a pas le choix. Juste vous rappeler, je sais qu'ils en ont parlé dans l'émission Rage Against le matin. Là, Max est tout le temps sur le gun pour ce qui est de la nouvelle. Il y a eu des avancées dans les négociations avec les cols bleus de la ville de Québec. Je vais juste vous dire que pour l'instant, les cols bleus, ils suspendent leur grève. Fait que est-ce que tout redevient à la normale dans les prochaines minutes? Je ne le sais pas. Ce que des cols bleus m'ont écrit par Messenger, c'est que les endroits où il y a du piquetage et tout ça, tout l'équipement va rester en place. Mais les gars vont retourner à job, tout en laissant leur équipement de piquetage là.
C'est-tu à cause des neiges qui s'en viennent les prochains jours?
Non, c'est juste pour les négociations, parce qu'il y a eu des avancées dans les négociations, mais si ça ne fait pas leur affaire, ils vont revenir à l'endroit où ils faisaient du piquetage, tout simplement. Fait que est-ce qu'il va y avoir les games de hockey qui vont être possibles? On va le savoir dans les prochaines minutes, les prochaines heures, puis suivez-nous, restez avec nous autres. On va avoir de l'information à vous donner là-dessus, très certainement. J'ai plein de trucs à jaser. Gene Hackman, est-ce que tu connais Gene Hackman?
Vas-y donc.
C'est un acteur d'Hollywood qui a fait partie de ma vie, une bonne partie, en fait, pas mal tout le long de ma vie. Là, moi, je l'ai connu très jeune dans Batman. C'est un gars qui avait 93 ans et c'est un acteur qui est oscarisé, là, qui est malheureusement décédé dans les dernières heures. Il a été retrouvé sans vie dans son domicile de Santa Fe à New Mexico, aux côtés du corps de sa femme. Sa femme avait 63 ans. Lui, il était autour de 92-93 ans de mémoire. Les dernières photos qui datent de quelques mois montrent un Gene Hackman vraiment, mais vraiment amaigri. Là. T'sais, pour tous ceux qui l'ont connu comme moi.
Il était malade?
Dans sa jeunesse. Là. Mais en fait, lui, il a commencé à être acteur dans sa trentaine. Parce qu'au départ, il avait une formation militaire. Il était dans l'armée américaine. Par la suite, il est allé à l'université pour avoir une formation en journalisme. Il n'a pas nécessairement trippé. Il est allé faire des cours d'acting. Puis après ça, il a commencé à New York là, dans des pièces de théâtre. Puis il a été découvert à ce moment-là. Fait que moi, je l'ai connu sur le tard dans sa trentaine où il jouait des rôles comme des rôles que tu pouvais faire dans Spider-Man. Là, t'sais, je me rappelle pas c'était quoi son rôle exact. Mais Lex Luthor, ça se peut-tu?
Ça se peut, c'est très possible. Écoute, c'est tellement un univers que je connais pas. Je veux pas. Je vais googler, là, je vais faire comme toi parce que c'est pas un univers que je connais. Là.
Il me semble qu'il avait joué le rôle de Lex Luthor dans Superman. Bon, il est mort. Là, j'ai son âge, c'est 95 ans.
Puis c'était-tu de maladie?
Ben, c'est ça qu'on sait pas. Parce que lui et sa femme ont été retrouvés.
Oui, t'as raison, Lex Luthor, Superman 78.
Il peut y avoir...
on a des grands connaisseurs de l'univers qui nous fait signe que c'est
il
bien
il peut y
ça.
Avoir plein d'hypothèses, puis laquelle est la bonne, je ne sais pas. T'sais, l'hypothèse la plus plate, c'est qu'ils ont décidé de se suicider les deux, parce que Gene Hackman était probablement en fin de vie. Mais d'autres hypothèses possibles, y a-tu une réserve de gaz qui n'avait pas été fermée? Y a-tu un véhicule dans le garage qui était en fonction, puis avec le gaz qui émanait de ce véhicule-là, ben ça l'a rentré dans la maison, puis malheureusement, ils sont décédés. Ton hypothèse ou mes hypothèses, on ne sait pas. Ça se vaut autant. Là.
Ça fait beaucoup en deux jours. On parlait hier de Michelle Trachtenberg qui a joué dans Gossip Girl, Buffy contre les vampires, Ice Princess, une actrice super connue qui, elle, est décédée à 39 ans. Son corps a été retrouvé, puis il n'y a pas encore de raison évoquée là, de son décès. C'est assez spécial.
Exact, exact. Mais 93 ans.
T'as une belle vie, par exemple.
Belle vie quand même. À moi, il faut que tu sois en santé. Tu sais, moi,
c'est toujours la question, hein?
La grand-mère de ma blonde, elle a 104-105 ans. Top shape.
Hey, c'est quelque chose, ça, ouais. Là.
C'est tellement quelque chose que quand il y a des nouveaux qui arrivent au foyer où elle est, là, au foyer des gens d'expérience, eh bien, ils rentrent à 78-79 ans, puis là, ils jasent avec elle, ils ne savent pas quel âge elle a. Puis à un moment donné, l'âge, les filles, vous vous bitchez entre vous autres.
Oh, fait que
l'âge vient sur le dans la conversation, puis elle a dit, ben moi, j'ai 104, là, je vais avoir bientôt 105. Puis il y a une dame qui lui a dit, mais vous n'avez pas encore demandé l'aide médicale à mourir, vous savez que ça existe.
Ben non, mais je comprends cette réflexion-là, pour vrai, je comprends.
Ils ont 25 ans de différence.
Imagines-tu le nombre de personnes qu'elle a perdues, cette dame-là, autour d'elle?
Ben, elle est chanceuse, parce que je pense qu'elle a encore une sœur en vie ou deux, puis elle a ses filles, puis elle a ses fils, puis elle a ses petits-enfants, puis ses arrière-petits-enfants.
Mais j'imagine que son conjoint est décédé, ses amis, tu perds du monde dans cet âge-là. Là.
Mais tu te fais un nouveau cercle d'amis, c'est juste ce que tu viens de dire là. Je veux dire, tout ce qu'elle a perdu, c'est atroce, je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est un nouveau cercle d'amis. Là, ton foyer de personnes âgées, tant que les gens meurent pas, ça, c'est tes amis.
Oui, mais tu sais, il y a des gens pour qui c'est la descente. Là. Fait que ça veut dire qu'elle est chanceuse, elle est super bien entourée. C'est peut-être ce qui aide à sa longévité aussi, remarque. Là,
ouais.
Dans le sens que quand t'es bien, t'es heureux. heureux, t'es en santé, c'est plus facile que quand t'es dépressif puis t'attends la mort.
Il y a des affaires weird. Il y a des statistiques qui disent que plus tu t'es isolé, plus tu vas mourir rapidement,
mais oui.
Plus t'es en couple. Et tu es un couple de personnes âgées, plus tu as de chances de vieillir plus longtemps. Il y a des affaires bizarres qui se passent des fois dans la société. Là. Une histoire qui s'est passée à Saint-Georges. Je ne sais pas si j'en avais parlé avec toi. C'était venu à mes oreilles, puis je vais faire attention parce que c'est des familles que je connais. Là. Mais l'homme est décédé à 13 heures dans l'après-midi. Puis sa conjointe est décédée à 22 heures le soir.
As-tu vu The Notebook?
Je t'en avais déjà parlé parce que tu m'avais parlé de ce film plate-là.
Ah, oh, bon, ouais. Fait que tu me l'avais déjà dit.
Fait que je te l'avais déjà dit.
Est-ce que tu as déjà vu ça avant de dire que c'est plate parce que c'est un sacrilège?
Mais explique-moi
dis,
comment ça peut arriver que deux personnes.
Mais c'est le syndrome du cœur brisé.
Couple pendant des années et des années, qui ont eu toute leur vie ensemble, les enfants, les étapes de leur vie, puis il y en a un qui décède, l'autre, c'était pas prévu. Pouf, 22 heures, elle se laisse aller. Merci, bonsoir.
C'est vraiment, on appelle ça le syndrome du cœur brisé. Fait que du genre,
je serais mort
là,
à 14.
Je le romance.
Je serais mort à 7 ans.
Ah, oh, ben non, mais là, faut que ça soit plus fort que ça.
Elle s'appelait
là.
Bianca.
On la salue. Faut que ça soit plus fort que ça.
Elle m'a enlevé de son Facebook, d'ailleurs.
T'sais, pour vrai?
Oui, oui.
Ah, ça fait mal.
D'après moi, son chum était jaloux.
Quand t'es plus ami Facebook avec quelqu'un là, ça veut tout dire.
Mais c'est elle qui m'avait ajouté sur Facebook. Il y a de ça, genre 2006-2007, Facebook.
Oui.
Fait que je me souvenais de l'avoir vu. Tiens, Bianca vient de réapparaître. Puis je pense que son chum était trop jaloux, là, devant une telle beauté.
Mais alors, regarde, ça t'a pas assez touché, parce que le syndrome du cœur brisé, ça s'appelle la cardiomyopathie de Takotsubo, et c'est provoqué par une faiblesse du ventricule gauche, puis en fait, souvent c'est causé par une détresse émotionnelle ou physique qui est très, très intense. On l'appelle aussi la cardiomyopathie de stress. Et le syndrome du cœur brisé. Fait que c'est probablement, j'imagine, que t'es rendu vieux, t'as l'impression que t'as plus personne d'autre que ta moitié de pomme qui vient de te laisser, là, qui vient de décéder.
Ouais.
Puis c'est trop pour ton petit corps de 95 ans, puis tu succombes aussi, finalement. On l'a romancé beaucoup, là, parce que dans le fond, c'est vraiment très, très triste. Là. T'sais, tu dis film plate, mais c'est un peu ce qui se passe dans The Notebook. Là. Il décède en même temps, au final. Puis... c'est romancé, fait que tu trouves ça cute parce que tu te dis finissent leur vie ensemble, mais ça doit être épouvantable, là, la douleur que tu ressens dedans. Là. T'as-tu déjà vécu une vraie peine d'amour, Yann?
Oui, ben oui.
Une vraie qui te fait mal en dedans physiquement, là, le cœur te serre. Là.
Oui, ben tu sais, je veux dire, quand tu te sépares, tu te sens pas nécessairement bien.
Non, ça c'est sûr que non, mais ce que je veux dire, c'est que des peines d'amour que tu vis,
oui.
Moi j'en ai vécu une où physiquement, là, quand j'y pensais, physiquement j'avais mal. Là. C'était comme, c'était la fin de ma vie, c'était épouvantable.
Uh-huh.
Mais cette douleur-là, je veux dire, imagine-la quand ça fait 50 ans que t'es marié à quelqu'un, c'est ta vie cette personne-là, t'sais, t'as plus personne autour de toi, c'est tout ce qui te reste. J'arrive à comprendre à quel point ça peut te submerger puis créer ce décès-là.
Ouais. Mais c'est weird.
C'est très philosophique. Hein,
c'est weird et c'est beau à la fois.
Oui.
C'est juste que pour les enfants, c'est plate. Là. T'sais, ton père décède, t'as un deuil à faire, puis quelques heures plus tard, ta mère part.
C'est beaucoup en même temps. Mais sais-tu quoi? Puis là, c'est jamais ce que je souhaiterais. Là. Mais pour avoir vu tellement de personnes rester malheureux après le décès de leur conjointe ou leur conjoint, je me dis, ben ils sont ensemble, partis vers de meilleurs cieux. C'est un deuil... d'un coup que tu vis, un gros deuil, mais j'ai comme l'impression que souvent, le deuil s'étire dans la vie parce que tu vis la peine des autres
mm-hmm.
aussi.
Ouais.
Tu sais, je vais prendre l'exemple de... Moi, mon grand-papa, je l'ai perdu il y a presque un an. Puis tu vois, une des parties que j'ai trouvées le plus difficile à travers mon deuil à moi, c'était le deuil de ma grand-mère. C'était voir ma grand-mère qui avait de la misère à s'en remettre puis à se recréer un peu. Puis moi, mes grands-parents habitent à Sacre-Cœur-Nord puis
ouais.
Ils habitent dans un village plus isolé. Là. La famille la plus proche est à une heure de route. Et, fait que c'était de voir ma grand-mère plus avoir de repères. On dirait que tu prends la peine de quelqu'un d'autre. Tandis que quand les deux décèdent en même temps, ça doit être épouvantable. Là. Je l'ai pas vécu, je parle tellement sans connaissance de cause. Mais c'est une shot. Le plaster est arraché. Ils okay. s'en vont en même temps vers de meilleurs cieux. Puis je veux dire, tu vis le deuil d'une shot, mais tu te dis qu'ils sont ensemble. Je sais pas si c'est la bonne façon de...
Mais j'imagine que tu le réalises après.
Possible.
Tu sais, quand tu perds tes deux parents, ça te brise le cœur. Puis quelques mois plus tard, une fois que ton deuil est fait, tu te dis que c'était la meilleure façon pour maman de partir. Parce qu'elle t'a rejoint papa.
Ouais. Ouais. Hey, on est dans un jeu deep, hein?
C'est profond.
On est profond aujourd'hui.
C'est profond.
On va s'amuser aujourd'hui.
Yes! OK, on s'en va en musique, les amis. Juste avant, on va vous parler de ce qu'on va jaser dans les prochaines minutes. C'est quoi faire partie d'un jury?
Oui.
C'est quoi être un juré?
Exact.
Comment on est convoqué? Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est parce qu'on s'est mis sur la liste électorale? Mmh. Je viens de vous mettre... Je viens de vous donner la raison comment on vous trouve. Mais c'est quoi un procès? Comment ça fonctionne? C'est quoi les instructions qu'on reçoit? Mmh. C'est quoi les stress qu'on vit? Quand il y a un délibéré, quand les jurés s'en vont derrière ou ils retournent à l'hôtel parce que des fois, ils sont à l'hôtel. T'sais, qu'est-ce qu'ils ont le droit de se dire? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de se dire? Comment ça fonctionne? Est-ce que tu as un vote à la main levée? Genre, c'est-à-dire, oui, là, il l'a tué. Non, il ne l'a pas. Mm. Il l'a pas tué. Puis est-ce qu'on essaie de se convaincre les uns avec les autres?
Oui, c'est ça. C'est qui les débiles là, dans ton groupe? J'ai tellement de questions parce qu'il y a ce que tu vois dans les films puis il y a la réalité. Puis ouais. Moi, je connais juste ce qui se passe dans les films en ce moment. Fait que j'ai hâte de voir comment ça s'est passé. C'est un auditeur qu'on reçoit, Luc McMillan, qui s'appelle, qui nous a écrit plutôt en début de semaine. On jasait avec Judith Demeul du Soleil dans le retour qui nous racontait les dessous justement d'un procès. Puis il a levé la main sur le texto en disant hey, moi, je l'ai vécu. Puis ça, en passant, là, vous n'hésitez jamais. Vous avez un métier particulier, vous avez vécu une affaire spéciale que vous avez envie de partager. 88-971-1021, ça sert un peu à ça l'open mic. Là,
t'sais. Yes!
Fait que c'est ce qu'on fait avec Luc ce matin.
Puis on va voir Maître Métal.
Oui, bien, j'ai jasé avec le Maître Métal, effectivement, pour poser des questions peut-être un peu plus intérieures. Comment ça se passe du côté de la cour quand tu choisis finalement le jury.
Yes. OK. En musique, Sarah Dufour, on va-tu prendre une marche sur les zones de boulevard? On revient. 10h27 minutes. Ça brasse du côté des cols bleus de la ville de Québec. J'étais en contact tantôt. Ben, en fait, il y a de ça quelques secondes avec un contact col bleu. Puis il me racontait un peu tous les derniers déroulements.
Développement.
Exact. Oui. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que les arénas vont ouvrir dans les prochaines minutes?
Ce que beaucoup de parents, entre autres, souhaitent pour leurs enfants, évidemment. Ça faisait partie des affaires les plus touchées auprès des citoyens. Là. Il y a beaucoup de gens qui étaient fâchés de ça. Là.
Yes. Aujourd'hui, on parle avec quelqu'un qui a vécu l'expérience d'être un juré dans un procès. Son nom, c'est Luc McMillan. On va le recevoir dans les prochaines minutes. Juste avant, on veut savoir, c'est quoi le processus pour devenir juré? Quand on est avocat, comment on choisit chaque juré? Mm. Est-ce qu'on se fie sur l'expérience des individus qui sont devant nous? Parce que de ce que je comprends, c'est qu'on invite une batch de personnes, puis après ça, ben, si ça nous prend 12 personnes, on doit accepter des gens ou refuser des gens. Puis on a décidé de jaser avec un gars qu'on connaît bien ici à la station.
Oui, bien, j'ai appelé le maître métal, Didier Sanson, que vous entendez dans Rage Against le matin, le meilleur, la grosse voix pour quelques questions qu'on avait. La première, ben, tu l'as dit, c'est quoi le jury idéal? Qu'est-ce qu'on recherche quand on veut trouver ces 12 personnes-là? Et voici sa réponse.
Ben, le jury idéal, c'est il va être constitué de personnes qui sont neutres à la base, qui vont avoir un sens de la justice, puis qui vont éviter d'être dans les préjugés ou les jugements, comment je dirais, passionnels. Là, c'est-à-dire qu'une affaire peut amener les gens à avoir certaines passions, qui vont les écarter peut-être du rôle qu'ils ont à faire, parce que le juré, là, le candidat juré, un travail, c'est d'être le juge des faits. C'est-à-dire, voici la preuve qui est admise devant nous et on doit juger là-dessus, indépendamment là, de tout préjugé. Ça, je te dirais que 12 personnes comme ça pourrait être un jury idéal qui est juste.
Tu sais, moi, dans ma tête, là, ça veut dire qu'automatiquement, tu dois vouloir éviter tous les émotifs, là, les gens qui sont peut-être trop touchés facilement, qui ne sont pas capables, justement, d'être neutres. Mais Didier Sanson m'expliquait que c'est quelque chose qu'on pouvait faire avant 2019. La défense, mettons, pouvait rejeter un jury sans justification parce qu'elle ne filait pas, mettons, par rapport à sa cause. Mais on a modifié en 2019 la loi C-75 pour faire en sorte que maintenant, on ne peut plus fonctionner de cette façon-là. Il faut absolument avoir une justification béton pour mettre un juré dehors. Qu'est-ce qui fait qu'on te sélectionne ou pas? Parce qu'ils envoient plus de lettres que pas assez hein, pour avoir justement une bonne catégorie de gens devant eux. Puis tu comprendras que dépendamment du procès qu'on entame, il y a des gens qui sont écartés automatiquement. Donc, qu'est-ce qui fait que tu es sélectionné ou pas?
Il y a des questions préliminaires qui vont être lors de la constitution du jury qui vont être posées par le juge. Bon, la personne, on a un dossier où est-ce qu'il y a de l'écoute électronique, la personne se présente, elle est sourde. Fait que ça va être motivé, ben vous entendez pas, puis de la preuve audio. Fait que ça va être assez évident que ça pourra pas passer. Mais autrement, c'est des raisons qui vont être motivées par la défense, puis le poursuivant, ils peuvent avoir des demandes, va dire, bon, ben, on a une personne qui va juger, un cas d'agression sexuelle, par exemple, et on découvre que le juré, sa famille a été victime de ça. Mm. Donc, ça peut être, on peut douter de la partialité de la personne, puis ça, ben, ça peut être présenté au juge, ou la personne a des antécédents judiciaires de fraude, par exemple, et on s'est découvert. Bon, ben, c'est tous des éléments là, qui peuvent être vérifiés, puis qui peuvent conduire à des retraits là, de ces candidats-là pour constituer la formation du jury.
Tant la couronne que les avocats de la défense sont au fait là, des petites tendances que certaines personnes peuvent avoir d'un bord comme de l'autre. Exemple, est-ce qu'on peut, dans un dossier de meurtre, exemple, mm-hmm. est-ce qu'on peut aller chercher la sympathie de ce jury-là?
Ouais.
Ou encore, on croit que cette personne-là a l'air tough on crime. Là, un meurtre, là, quelqu'un qui a commis un meurtre, là, ça mérite une lourde sentence. Là, sont déjà suspicieux. Ah, il a commis un meurtre. Tandis que l'autre, il voit que la personne, comme c'est un juré un peu plus à gauche, là, la réinsertion sociale, c'est important. Puis, tu sais, il n'y a pas eu une enfance facile.
Les avocats scannent un peu.
Il n'y a pas eu une enfance facile. Fait que ça se peut qu'il se retrouve un peu dans le jury. Mm. Fait que c'est sûr et certain que l'avocat, d'un bord comme de l'autre, va essayer de choisir un jury qui va peut-être plus privilégier son client ou il va privilégier la couronne.
Le regarder dans les yeux puis essayer de s'adresser à lui. Ouais. Puis de totalement. Une autre question qu'on se posait, quand un procès est complexe et que ça implique des professionnels comme des psychiatres, des chimistes, techniciens en scène de crime, tu sais, comment on s'assure que les jurés peuvent suivre en n'ayant aucune base scientifique pour rendre un verdict juste? Le maître métal, Didier Sanson, m'expliquait que ça, ben, c'est la job de l'avocat de bien vulgariser. Parce que ça va lui nuire au final si ouais. c'est pas bien vulgarisé. Plus la preuve est complexe, plus les jurés risquent d'avoir des questions aussi, puis on s'assure d'y répondre, évidemment, parce qu'ils peuvent interrompre leur débat à tout moment, là, pour que quelqu'un vienne leur expliquer quelque chose si c'est pas clair assez pour qu'on soit le plus neutre possible. Mais c'est vrai, par exemple, que dans certains cas, il peut y avoir des enjeux. Il me l'a dit quand même, il dit c'est plate comme réponse, là, mais il dit t'as pas le choix de « trust the process » parce qu'il dit au final... Tu fais confiance, tu as le plus possible analysé ton jury pour être sûr que ça fonctionne, mais s'il y a quelque chose qui a mal été compris puis que le jury le dit pas, tu peux pas non plus le deviner.
Ouais. Puis même affaire quand c'est un procès qui implique un juge. Mm-hmm. Tu sais, si c'est une preuve balistique, exemple, le juge n'est pas un expert en balistique. Là. Donc, lui, il doit se fier sur la crédibilité de l'expert de la mm-hmm. défense et de la crédibilité de l'expert de la couronne puis se dire ben, lequel a le plus de crédibilité. Tu sais, c'est arrivé de mémoire, c'est arrivé dans le dossier, je pense que c'était un des premiers procès du juge de Lille. Ils sont allés chercher un expert balistique en Europe qui est descendu au Québec pour démontrer que lui, selon ses connaissances, ça avait été fait de telle ou telle manière, avec les angles et tout ça. Puis là, ben, ils ont réussi à prouver que le gars n'avait pas tout à fait les bons cours pour être considéré, entre guillemets, comme un expert en balistique. Mais c'était, je me rappelle pas, c'était quelle partie? C'était-tu la couronne ou la défense qui avait trouvé ce petit, cette petite virgule-là dans le CV de l'individu? Mais le juge, lui,
il sait pas. Là.
Il sait pas. Si c'est un procès avec rempli de jurés, là, t'en as 12. Là, le jury, c'est 12 personnes, puis il n'y en a pas un qui connaît quoi que ce soit au niveau balistique, tu es obligé de te fier à l'expert qui est en train de te raconter ses affaires. Et l'expert, il a été choisi parce que son discours fit avec la personne qu'il paye.
C'est sûr. Mais oui. Mais oui. Il y a un biais, là.
Ben oui!
Il y a un grand biais, là. Puis, tu sais, pour ce qui est du jury, Maître Sanson me disait, tu sais, mettons que dans les questions là, qu'on pose en faisant notre choix là, de jury, là, on je sais pas, on remarque pas qu'il y a une faille chez quelqu'un. Puis finalement, le procès, mettons, c'est sur l'intelligence artificielle. Là. Il est arrivé quelque chose avec l'intelligence artificielle. Puis tu te rends compte que dans ton jury, il y a un monsieur qui n'a pas d'Internet chez eux, qui n'est pas familier avec la technologie. Mais tu sais, c'est possible que ça marche pas à un certain point puis que tu doives le mettre dehors du jury puis prendre quelqu'un d'autre. Là. Fait qu'ils ont toujours des backups aussi. Fait que c'est quand même super intéressant. Puis là, ben, dans les prochaines minutes, on va s'installer avec quelqu'un qui a reçu la lettre, qui a été acceptée dans le jury et qui a vécu une super belle expérience. Je sais qu'il y en a pour qui c'est pas une belle expérience, niveau monétaire entre autres. Lui, de son côté, a vraiment apprécié ce qu'il a vécu, puis je sais qu'il y a bien des affaires à nous raconter.
All right, on fait une courte pause et on vient 10h36.
Du 4 au 9 mars à Expo City.
10h41, vous avez des choses à nous dire. C'est le 418-971-1021, 418-971-1021. On vous rappelle que la grosse nouvelle du jour pour ce qui est des gens de Québec, c'est que les cols bleus ont décidé de suspendre leur grève. Donc, ils n'ont pas décidé de mettre fin à leur grève, mais ils ont décidé de suspendre leur grève. Et j'aurai un col bleu avec moi, Valzantour, 11h30, là, pour nous expliquer comment ça se passe aujourd'hui, c'est quoi le moral des troupes. Est-ce qu'il y a des possibilités qu'on puisse rouvrir les arénas?
Oui.
Pour ce qui est du patinage artistique...
On est obligé d'attendre 8 cm de neige avant de déneiger, parce qu'on en a des prochains jours.
Les piscines aussi, les piscines où il y a des moniteurs et tout ça, tout ce beau monde-là ont perdu leur job dans les dernières heures. Ben oui. Là, il va falloir les rappeler. Fait que j'ai bien hâte de voir la discussion avec le col bleu que je vais recevoir vers les alentours d'11h30 avec Pascal CV tantôt. Mais pour l'instant, on revient au sujet du jour. On parle d'expérience de jury dans un procès et on a eu le plaisir de recevoir en studio à l'instant Luc McMillan, qui est un auditeur qui a vécu l'expérience d'être juré dans un procès. Salut Luc, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Ça fait plaisir, une très belle expérience à vivre pour moi surtout.
On joue des coquets, on n'a pas encore joué l'un contre l'autre.
Hein? Non, pas encore, surtout qu'on a le même gardien, donc il y a des grosses chances que ça arrive. Pas.
Ben un jour, peut-être, t'auras la chance.
Ah, peut-être, je remplace dans le thème d'équipe.
Ben oui. Comment ça a été ce fameux procès-là? Est-ce que tu as le droit de dire c'était dans quel procès?
Bien, tu sais, j'ai pas eu d'indication contraire. Je veux pas, les procès, c'est public.
Ouais.
Tout le monde peut se présenter sur place et voir les procès. Tu sais, c'est sûr que j'ai pas l'intention de dire oh, telle personne, de toute façon, je m'en souviens pas.
Okay. Ah,
c'est,
bon.
Moi, je suis comme un papillon, je vois un papillon, c'est fini, je l'oublie.
C'était on n'arrête pas de me dire ça. C'est un procès à ce moment-là.
C'est une tentative de meurtre.
Okay. OK.
Et c'était, tu, grosso modo, pour faire un wrap-up rapide de ce qui s'est passé, c'est que ça s'est passé, on va dire, dans les terres, ça arrive sud.
OK.
Genre de bord de quartier, on va dire, bord de région,
ouais.
Ça, de village. Deux personnes qui ne s'aiment pas nécessairement la face. Puis il y a quelqu'un qui avait un gun sur lui. Ça se pogne un peu, sort un gun dehors, boum, boum, boum. Et voilà,
okay.
Tentative de meurtre.
Fait que là, toi, ça, c'était le procès auquel tu devais assister en tant que juré. Puis
oui.
À la toute fin, ben, vous avez décidé si oui ou non, il était coupable.
Comment
ils t'ont rejoint?
Premièrement, c'est une lettre qu'on reçoit. Si mon l'information que je donne, j'espère qu'elle est bonne.
C'est ton toujours... expérience.
Oui, c'est final, ça, c'est mon expérience, exactement.
T'étais-tu sur la liste électorale?
Ben oui, je crois que c'est comme ça que ça marche.
Voilà.
Je crois que c'est la liste électorale qui fait fi de tout. Je reçois une lettre me disant que je suis convoqué au palais de justice à telle date. Et moi, by the way, en plus, je reçois la lettre et je la mets dans mon auto et je l'oublie.
Oh. Ah, puis en plus, ça peut être criminel,
exactement.
Ça, de ne pas te présenter.
Puis là, moi, à ce moment-là, en plus, dans ces années-là, il y avait des juges qui avaient fait des sorties disant comme quoi que là, c'était comme un fléau, que le monde ne se présentait pas. Donc, moi, je vois ça des nouvelles. Là, je fais « Ah non, ah non, là, je vais chercher la lettre dans mon char que ça fait genre 2 mois qu'il est là
ouais. »
pour me rendre compte. Puis là, en plus, on venait comme de déménager. Fait que là, l'histoire de courrier, tout, je n'étais pas trop à mes affaires. Et là, je me rends compte « Ah non, la date est passée depuis 2 semaines. » Je suis en onge, je suis en marde. Et je m'en vais voir à mal. Et j'ai une autre lettre de reçu disant que la convocation a été reportée genre 2 semaines plus tard.
Fait
que là, ça arrivait là, que c'était genre dans la semaine quand je me suis rendu compte de ça.
Okay.
Donc, c'est comme ça, c'était.
Fait que là, tu arrives au palais de justice de Québec.
Oui.
Tu t'annonces aux agents de sécurité qui sont là. Puis ils te disent telle salle, tu dois y aller.
Exactement.
Là, tu vas à cette salle-là.
Oui.
Et comment t'es accueilli? Puis t'es-tu avec plein d'autres personnes comme toi?
Ouais, de mémoire, on était genre 2-3 scènes dans la salle. Là, parce
oh,
que
hey!
De mémoire, oui, mais il y avait 3 procès à ce moment-là.
Okay.
En même temps, donc, là, c'est une sélection, puis t'es un numéro, veux pas. Fait que là, si je me souviens bien, on te donne un numéro. Ça fait quand même 10 années. Donc, on te donne un numéro, t'es dans la salle et t'attends.
Okay.
Et puis là, ils ont l'air, de ce que je me souviens, ils te callent à coup de 10. Fait que là, tu pars 10, puis là, tu t'en vas dans une salle, puis t'arrives dans une salle d'audience. on va dire. Puis là, t'es comme mis à l'arrière, puis là, t'as les avocats en avant de toi et t'as le juge.
Ouais. Quelle question on te pose?
Première question, premièrement, tu vois les autres passer en avant. Puis là, moi, quand j'arrive comme dans le box. Et là, le juge me pose la question. Premièrement, moi, la question qu'il m'a posée, c'est...
As-tu dit coupable en partant?
Non, mais j'ai vu du monde le faire.
Ah oui?
Oui, parce qu'il y a du monde qui ne veut pas être là. Moi, deux, trois personnes avant de moi, là, tu sais, bonjour, monsieur le juge, il pose la question, est-ce que vous êtes à l'aise? Ben, ouais. Ben. Puis le gars, il dit, moi, je vais vous arrêter tout de suite, monsieur le juge, ce gars-là, c'est un crotté, il est coupable. Le juge, tu sais, il est comme désespéré, il regarde les avocats, ils font, on vous remercie, monsieur. Vous pouvez
passer. Ouais, fait que ben c'est oui. Comme la façon facile de t'en sortir.
Oui, parce que le problème de ça, c'est 103 piastres par jour qu'ils te donnent.
Exact.
Fait c'est pas beaucoup.
Il y en a qui ont les moyens d'être jurés, puis il y en a d'autres qui se disent, peu, là, moi, là, je peux perdre 2 puis 3 semaines de salaire, j'ai pas les moyens.
Un chef d'entreprise, il est pas content d'être là.
Ouais. Toi, ça marchait comment?
En partant.
Ben moi, en partant, oui, exactement. Puis moi, tu sais, en partant, déjà pour faciliter l'expérience. Moi, ma convention collective me permet d'aller comme juré et je ne perds aucun argent.
Okay.
Donc, j'amène l'argent qu'on me donne, je la donne à mes ressources humaines et ma paye rentre. Et même pour moi, c'était plus payant parce qu'ils donnent un petit peu d'argent pour le déplacement.
Ouais.
Ah bon.
Donc,
ça ressemble à quoi?
Je pourrais pas vous dire, mettons, je finissais peut-être la semaine avec 100 piastres de plus dans mes poches.
Okay.
Mais moi, c'était une expérience. Je me suis bourré à face pendant 4 semaines.
T'étais content.
Oui, oui, j'étais content. Là, vraiment,
fait que là, t'es devant. La première question qu'il te pose, toi, c'était quoi?
C'est est-ce que vous croyez au système de justice québécois?
Et
moi, je voulais être là. Fait que je fais mon bon gars. Oui, monsieur le juge, pour moi, c'est vraiment... Puis c'est vrai, là, j'y crois. Là. C'est la base de toute société.
Ouais.
Et surtout que le fait d'être non coupable, sans preuve du contraire, tu sais. Fait que là, il demande, puis la manière que ça fonctionne, c'est qu'une fois que toi, t'es choisi comme juré, tu t'en vas, il y a les deux avocats qui sont, mettons, à leur place, comme on voit dans les films, sont à leur place, puis entre les deux, il y a deux chaises, puis c'est les deux derniers jurés qui ont été choisis. Eux sont là, fait qu'ils sont comme tampons entre les deux, donc le juge demande aux deux jurés qui sont là, qui ont été choisis avant, moi j'étais numéro 11, donc il y avait numéro 10 et numéro 9. Il demande... une question, je me souviens plus c'est quoi le terme exact, donc tu dois répondre oui ou non. Est-ce que toi, tu le prendrais? Et après ça, il demande aux deux avocats, ou vice-versa, c'est peut-être les avocats en premier. Et là, chacun doit dire oui. Donc, il doit avoir...
une confirmation,
confirmation
de tout le monde.
Est-ce qu'ils t'ont posé des questions? Parce que là, tu nous as parlé d'une question qui t'a été posée, mais est-ce que l'avocat de la défense, l'avocat de la couronne te pose une question aussi?
Non, c'est seulement un juge. Je me souviens qu'il m'avait demandé aussi si ça... l'empiétait sur ma carrière ou s'il y avait des points que je pouvais apporter.
Ils t'ont demandé ce que tu faisais d'envie?
Pas nécessairement, c'était plus général. C'est vraiment une question, est-ce que ça vous apporte certains problèmes? Blablabla. Mais en général, c'est une obligation citoyenne d'être là. Donc, je pense pas qu'il y ait de grosses raisons, là, à moins que, je sais pas, peut-être question de maladie, quelque chose de genre.
Puis est-ce que toi, quand le procès a débuté, est-ce que vous étiez séquestré ou vous aviez le droit de vaquer à vos occupations?
Je pouvais vaquer à mes occupations. Même que, tu sais, les deux premiers jours, là, une fois qu'ils nous ont posé la question, moi, j'ai été assis. Par la suite, ils nous amènent dans une salle, puis on pouvait sortir. À la fin, on partait à la fin de la journée.
Est-ce que tu lisais le journal pareil sur la cause?
Non, c'est sûr qu'ils nous demandent de pas nécessairement de faire de recherche par rapport à ça, là, d'essayer de rester un peu...
Le plus neutre possible.
Oui, le plus neutre, exactement.
As-tu l'impression que les gens respectent ça ou...
Je l'espère. Je l'espère, à savoir, moi, je n'ai pas fait de recherche.
Okay.
Je ne veux pas, j'essayais d'avoir une tête là, par rapport à faire ma propre opinion. Là.
Parce que ce n'est pas un jeu, là, non plus. Là.
Non, c'est ça, exactement.
Est-ce que vous jasiez au fil et à mesure, au fur et à mesure qu'on vous expliquait, bon, qu'est-ce qui s'est passé, qui est monsieur, voici son pédigree, qui est la victime, voici son pédigree. Est-ce que vous, lorsque vous étiez dans une salle à part, est-ce que vous jasiez de la cause?
Oui, je ne veux pas... tu reviens, tu poses tes commentaires de ce qui s'est passé, de ce que tu as vu, tu sais, par rapport à la situation, des fois des photos, du monde qui ont parlé, tu sais. Fait que là, on en parle entre nous autres, mais tu sais, puis bien souvent, là, ça va bien, là, parce que c'est pas encore le moment de choisir de faire le verdict final. Fait que tout le monde se parle, c'est tellement convivial. Là.
L'ambiance est le fun.
L'ambiance est le fun jusqu'à la fin.
Est-ce qu'il y en a qui tentent d'influencer, de par leur pensée du procès, là, est-ce qu'il y en a qui tentent d'influencer les autres?
Moi, on n'a pas vécu ça. On avait un beau groupe.
Ouais.
Y a-tu des spéciaux?
Oui. Ah, oui. nous autres, quand on s'est assis, là, puis premièrement, une fois qu'on a eu, qu'on a été choisi, on s'en va dans une salle, puis là, il y a la shérif. Je me souviens, moi, c'était une shérif. Il doit avoir un shérif aussi. Mm-hmm. Et la shérif, c'est la personne qui s'occupe de tout le monde, là, des besoins, qui nous explique comment ça se passe. Quelqu'un qui gère, dans le fond, le palais de justice, de ce que j'ai compris. Et elle vient nous dire, bon, vous devez être là à telle heure, vous devez faire ça, 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 ça. Puis t'as toujours, tu sais, c'est là que tu vois les spéciaux, là, un peu, parce que les autres sont spéciaux, hein. Fait que là, eux autres, on dirait que ça se rapporte pas à eux. Ah oui, mais moi, vous savez, j'ai de la misère à me rendre. Hey, gars, on s'en fout, là. Faut que tu sois là à 8h30.
Ouais. C'est ça, organise-toi, t'as accepté, c'est ça qui se passe.
Exactement. T'as pas. Ah oui, mais moi. Fait que là, tout ça, en partant, j'avais la jury numéro 12 à côté de moi. Puis première chose que j'ai dit, c'est OK, je sais avec qui qu'on va avoir du trouble, déjà, pendant, et effectivement.
T'as-tu vu des images atroces? Parce que, tu sais, moi, j'ai des collègues qui ont couvert des procès. Je pense que c'est Pascal Cévé a couvert le procès de la mosquée de Québec. Il y a eu d'autres tragédies qui se sont passées à Québec. T'sais, Denis Lortie et tout ça.
Ouais.
Ces gens-là ont dû...
ça doit être atroce.
Voir des images que, tu sais, toi, moi puis Audrey, on verra jamais de notre vie. T'as-tu vu ce genre d'image-là qui a fait en sorte que t'es pogné avec ça?
Non, parce que... Ça a été relativement assez facile. Le gars sortit un gun, il a tiré, mais il l'a pogné dans le bras. Le gars s'est protégé.
Okay.
Il l'a pogné dans le bras, puis parce que le gars a mangé une volée, par exemple. Ouais. Parce que le gars, celui qui avait tiré, faisait des arts martiaux. Okay.
Puis tout ça, ça a été filmé, là?
Non.
Ça n'a pas été filmé?
C'était tout simplement des... Non, parce que où ce que c'était, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait rien de ça. Fait que tu sais, c'est vraiment des récits qu'on se fait
puis
raconter.
Par ton appréhension au départ de ce qui était un procès versus ce que ça l'est. T'sais, nous autres, on a tous été éduqués par Hollywood. Là, moi, je me souviens d'un film d'avocasserie que j'ai adoré. Là, c'est L'avocat du diable.
Ouais, c'est pas le même genre.
Un des meilleurs films d'avocat que j'ai vu de ma vie, même si c'est très hollywoodien. Mais sinon, il y a une série sur les avocats.
Suits.
Que j'ai adoré, qui sont plus eux autres dans le civil que dans le criminel. Mais tu pensais-tu que ça ressemblait un peu à ça, les procès? Ou c'est...
Oui, mais tu sais, ça y ressemble. Ouais. Veux pas. Là, tu sais, c'est la base des avocats, le juge, il faut être respectueux.
Le décorum
ouais, autour de ça.
Les séances, ça dure combien d'heures?
Ça peut être assez long. ça peut être très long, mais tu sais, 8h30, mais je dis ça, mais c'est pas vrai. Là, tu sais. On rentre à 8h30, le temps qu'on rentre dans la salle, en plus de ça, genre à 11h30, 11h45, on s'en va dîner, 1h30 de dîner.
C'est sur le bras, ça.
2h, oui, c'est sur le bras. Mais de ce que je comprends, c'est que c'est comme l'argent, il est saisi, puis enfin, finalement, je crois que,
ouais,
je crois
que
mon information,
paye,
me semble, c'est ce qu'on
savoir,
nous avait dit. C'est ça, c'est parce que c'était de l'argent utilisé.
C'est pas notre argent, mettons.
Je ne crois pas, de ce que me semble, de mémoire.
C'est positif, ça.
Fait que, ben oui, c'est bon.
Bref, vous avez 1h30 de break sur l'heure midi, puis après ça, les séances reprennent dans l'après-midi.
On reprend jusqu'à genre 4h30.
Ça doit être tough quand même, parce que là, c'est la vie de quelqu'un qui est en jeu. Fait que tu dois être concentré. Là, tu disais tantôt, moi, quand je vois un papillon bleu, 2 minutes après, je m'en rappelle plus. Tu sais, pour toi, puis c'est la même chose pour moi, soit dit en passant, Audrey pourrait t'en témoigner. D'être concentré pendant 5-6 heures en ligne, c'est tough. Là.
Oui, c'est tough, effectivement. Moi, autour de moi, je ne suis pas un preneur de notes. Autour de moi, là, ça prenait des notes. Moi, j'ai toujours été, je me concentre, j'écoute.
Ouais.
Puis en même temps, je dis pas si ça avait été un procès des Hells Angels qui dure genre 6 mois avec des classeurs à n'en plus finir avec des dossiers. Nous autres, ça a duré 4 semaines. Ouais. On avait un petit
dossier. Vocabulaire des avocats, c'est assez simple à suivre?
Oui. Ouais. Oui, très simple.
Est-ce que, tu sais, quand tu assistais au procès, là, y a-tu des fois où tu disais, tabarouette, me semble que j'ai perdu le fil, là? Il me semble que ce qu'il est en train de dire là, les mots qu'il est en train d'utiliser, puis là, il parle avec le juge, il parle avec l'autre avocat de la couronne, eux autres, là, c'est comme s'il était dans un party, tout le monde se comprend, mais moi, je suis rendu complètement ailleurs.
Non, ça a été vraiment assez clair. C'était simple, oui. Parce que veux pas, on est 12 personnes, il faut qu'on comprenne. Là.
T'avais-tu, est-ce que le jury était caché ou tout le monde te voyait à la face? Là?
Tout le monde te voit à la face.
Fait que l'accusé te voit à la face.
Oui.
Puis fais-tu des clins d'œil, mettons?
non, pas du tout. C'est sûr qu'on n'a pas tendance à regarder nécessairement l'accusé. J'ai regardé une couple de fois.
Moi, j'aurais le réflexe de vouloir regarder.
Oui, pour
là.
Regarder un peu comment il réagissait.
Exact,
mais
ben oui.
Est-ce qu'on peut vraiment se fier à ça?
Mais
qui serait pas stressé?
Procès de Maurice Mombouchet, là.
Ouais.
Toi, t'es juré, là.
Mmh.
Puis il te regarde.
Oui. Je tiens le regard.
Là, tu détournes les yeux, puis là, tu regardes le juge, puis là, tu te revires encore vers Mom. Ben, plus là, parce qu'il est plus là, là. Mais tu te retournes vers Mom, puis il te regarde encore. Ça peut t'influencer sur ton jugement à la fin.
Ah, moi, je suis pas de même.
Ah non?
Et moi, je pense que je tiendrais le regard.
À partir du moment où tu reçois une photo de ta mère chez vous?
Ah, mais là, pousse pas. On n'est pas dans un film, Yann. Là. Ah ouais, tu t'as-tu vécu ça?
Ça m'étonnerait même pas.
Regarde, je sais pas.
Ouais, là, t'aurais un petit stress. Hein?
Je l'ai pas vécu, je sais pas.
Parce que j'imagine que c'est déjà arrivé. Ben, tu sais, à Québec, c'est un peu plus soft, de quoi que ça brasse pas mal. Mais dans des gros procès, tu sais, exemple, à New York, là, quand la mafia new-yorkaise et tout ça, tu sais, les jurys, là, ils doivent pas filer, là.
Sûrement pas, surtout dans des gros procès comme ça. Puis c'est pas pour rien aussi que quand on part sur les heures du midi, nous autres, on part des constables. C'est pas on part chacun notre bord. Là.
Ah, les constables vous suivent?
Oui, les constables nous suivent. Fait que là, tu sais, on passe par en arrière, on passe pas avec le monde à travers, on embarque dans un autobus, dans une petite salle en bas avec des portes fermées, la porte à rouvre, on sort en autobus.
C'est pour vous protéger ou c'est pour éviter le contact avec... C'est pour vous protéger, oui.
Je crois que oui.
Pour toute tentative d'influence.
Oui, hein, exactement. Tu t'en vas dîner, puis il y a quelqu'un qui vient s'asseoir à côté de toi, et ben de oui, le procès. Puis la manière que ça marche aussi...
C'est... Chose tu restes.
Oui, c'est ça, chose et tu
Audrey?
Restes.
Tu te souviens-tu encore le regard?
Peut-être pas. Mais là,
tu me tenais,
Luc, je veux juste... Là, ça a duré 4 semaines. Ouais. T'es-tu 4 semaines à l'hôtel avec ce monde-là à manger? Tout. OK, tu peux...
Je retournais chez nous à tous les soirs.
OK.
Puis je dis 4 semaines, mais ça a été 3 semaines, une semaine de break, puis une autre semaine. Oui, exactement.
Puis si on parle du déroulement du procès, parce qu'il y a des gens qui sont un peu perdus là, comment on fonctionne en justice, là. Comment ça fonctionne? Jour 1, mettons, puis défile-nous un peu là, ce qui s'est passé, puis tes impressions.
Nous autres, les 2 premiers jours, on n'a jamais été en salle. Parce que on rentrait à 8h30, puis là, de ce qu'on nous disait, c'est qu'il y a des points de droit qui doivent être discutés entre les avocats puis le juge. Puis là, de ce que je comprends, des points de droit, mettons, on donne un exemple. Nous autres, le gars, c'est un vendeur de drogue dans ce cas-ci. Ouais. Donc, ils incluent dans le procès que c'est déjà défini que le gars avait de la drogue, que le gars avait un physique. Donc, c'est des points de droit qui gèrent.
Puis, on voit souvent des films qui font sortir le jury quand il y a des problèmes, justement, de points de droit, puis ils font rentrer après.
Exactement,
là.
Ça nous est déjà arrivé quelques fois. Mais nous autres, les 2 premiers jours, on n'est jamais rentré en salle. Fait qu'on rentrait à 8h30. À 11h30, ils nous disaient « Bon, ben on s'en va dîner, puis vous ne rentrez pas cet après-midi. »
Ah!
Fait que les 2 premiers jours, puis même la 3e journée, on rentrait, était genre 10h, 10h30.
Oui.
Puis là, c'est là que ça a commencé. Oui, l'interrogatoire commence.
Les contre-interrogatoires, c'est quoi ta perception? Parce qu'on a souvent l'impression dans les films puis dans les séries que c'est là que les gens se font complètement détruire. Là.
Ah, j'ai vu un policier se faire détruire sur sa crédibilité, mais en même temps, tu sais, c'était ridicule, c'était sur des points, puis c'est à ce point-là ce que le juge m'a repris. Donc, je m'explique que le juge vient expliquer que la balle se trouvait à tel endroit par rapport à tel mur, puis l'autre était à tel endroit. Puis là, le contre-interrogatoire, l'avocat vient lui demander « OK, mais comment vous pouvez nous dire que la balle était vraiment à ce point-là? » Puis le gars, il n'était pas capable de l'expliquer. Puis il nous disait « Ouais, mais à cause de la hauteur du mur, de là, puis tout. » Mais c'est simple. En tout cas, pour moi, c'est simple parce que je travaille avec ça tous les jours. Moi, je suis machiniste, donc des angles, je travaille avec ça.
Ouais.
Théorème de Pythagore. Tu as une hauteur, tu as 2 longueurs, un angle. Automatiquement, tu sais tout où se peut se déplacer. Ouais. Mais il n'était pas capable de l'expliquer.
Tu sais quoi, le théorème de Pythagore, on l'a appris ça au secondaire.
Oui. Oui.
Puis depuis ce temps-là, depuis que j'ai appris ça, à chaque jour, je me dis encore une autre journée à ne pas utiliser
le
théorème de Pythagore.
J'ai le même réflexe que toi.
Et pourtant, en 2025, moi, je m'en sers. Le 27 février, j'ai mon chum Luc McMillan qui arrive en studio et qui me parle du théorème de Pythagore.
Non, oui. Ça sert pour vrai, la gueule.
Oui, yes!
Puis il n'était pas capable de l'expliquer. Puis le juge, pas le juge, l'avocat, il dit « OK, mais si vous n'êtes pas capable de m'expliquer ça, pourquoi est-ce que je pourrais vous rendre votre crédibilité, c'est quoi? » Puis là, moi, j'étais là, puis je disais aux autres, j'essayais de parler. « Oui, mais théorème Pythagore, c'est super facile. » Le juge m'entendait. Fait que là, ils ont fait sortir les avocats. Non, les avocats sont restés là. De ce que je me souviens, on est sorti quand ils nous sont revenus, ils nous ont fait un speech disant écoutez, c'est pas à vous autres de juger de ce qu'est-ce qui doit être dit puis comment ça doit être fait. Et c'était moi qui regardais dans les yeux en disant ça. J'y ai fait un signe de la tête, je comprenais, ça c'est plus ferme-toi.
Ouais.
Ouais.
Est-ce que tu as assisté à des conflits là, entre, je sais pas, moi, les avocats? Est-ce que la victime puis l'accusé sont entrés en contact, ils se sont jasés? Est-ce que l'accusé, lui, il lutte pour sa vie?
Hein, oui.
Est-ce que lui était très agressif?
Ou, non, tout le monde était très tranquille. C'est la fois que j'ai vu un peu comme de drame humain, c'est que la personne que la victime, elle a raconté ce qui s'était passé par la suite. Suite à l'agression, et elle était retombée, c'est une personne qui avait déjà eu des dépendances à la drogue, et par la suite aux médicaments, elle expliquait qu'elle était retombée dans la drogue longue, elle avait perdu sa job, sa maison, sa blonde.
Oh,
fait que là, tu sais, ça, c'est la détresse là, qu'on voyait, puis un moment donné, là, tu voyais qu'il s'emportait, là, puis il disait, tu sais, puis là, il commençait à lever le ton, tu sais, pourquoi cette crotée-là, je suis obligé d'expliquer ça, puis cette crotée-là, tu sais... c'est le seul moment où ce que. Oui, c'était émotif. Et c'était dur à entendre, je veux pas, tu sais, quelqu'un qui. Puis s'était placé, ça allait bien, puis il a tout perdu, tu sais, à partir de ce moment-là. Ça, c'est le bout que j'ai trouvé le plus rough.
Est-ce qu'on vous demande de. Bien, en fait, je suis sûre que la réponse est oui. Est-ce qu'on vous demande de rester neutre dans vos émotions faciales? Mais parce que j'imagine que dans certains procès, les larmes te coulent, là.
Ah, sûrement. J'ai pas la même. L'idée qu'on nous ait déjà demandé ça, mais c'est sûr, c'est toujours les instructions, c'est vraiment d'essayer de rester impartial, d'essayer froidement
ça
de voir. C'est ça, c'est des faits.
Ouais. Moi, j'ai déjà couvert certains procès là, dans mon passé, puis j'avais remarqué qu'il y avait comme une ligue du vieux poil qui s'installait au palais de justice. Là. Mm-hmm. C'est des gens qui sont en retraite, puis qu'eux autres, le système de justice, ça les intéresse. Fait qu'à tous les jours, ils prennent leur petit café, après ça, ils montent en haut, puis ils assistent au procès. Puis parfois, j'en avais vu qu'ils se faisaient mettre dehors parce qu'ils il piaillait en même temps que le. Tu sais, comme une madame au cinéma, là.
Ouais, ça, ça j'aime.
Qu'est-ce qu'il va faire? Ah! Il collait les shots d'avance, puis j'en ai vu se faire sortir par le juge. C'est assez particulier parce que t'as un policier qui est là, un policier ou un constable spécial, et qui est là, puis d'habitude, il fait la job. Mais moi, j'ai déjà vu un juge dire là, vous, madame, c'est assez, ça fait 3 jours en ligne que je vous entends, je ne suis plus capable de vous quitter. Puis là, le constable spécial l'avait pris, puis il l'avait sorti parce qu'elle voulait pas sortir.
Mais il y a vraiment un décorum.
C'était comme
de
si c'était son procès à elle.
Oui. Ah non, c'est vraiment spécial.
T'as-tu vu ce public-là un peu?
Oui, il y avait du monde qui revenait, puis on se disait, tu sais, as-tu vu, tu sais, après une semaine, on a commencé à les reconnaître. Fait que là, t'sais, clairement, eux autres, ils venaient là pour s'entertainer.
Ouais.
Puis ça doit être cool, là. Sérieux, je pense que je vais le faire plus tard, que je serai retraite, d'aller voir un ou deux recettes. Mais tu sais, un gros c'est procès, public. Là, t'arrives, là, Hells Angels, là,
ouais.
Quelque chose de vraiment hot, là.
Ouais.
Ça doit être vraiment intéressant.
Être
tu peux choisir tes causes, là, tu sais. Puis je reviens avec les gens qui sont impliqués, comme toi, que tu as été impliqué comme membre d'un jury. Tu le choisis pas, ton procès,
non.
Luc.
Non,
tu peux tomber sur un procès qui implique un pédophile, puis là, tu vas devoir te taper les photos que le maudit pédo avait dans son ordinateur.
C'est challengeant, là.
Les vidéos que le maudit pédo avait dans son ordinateur. Tu sais, moi, j'ai déjà parlé une fois à un policier de la Ville de Québec qui, lui, sa tâche était de visionner tout ça pour ramasser la preuve, puis après ça, envoyer ça dans le dossier puis mettre ça au DPCP. J'ai vu un reportage aussi sur ces 10 policiers-là, ces policières et ces policiers qui font ça pendant genre 6 mois, puis après ça, il faut qu'ils soient relevés de leur fonction parce qu'ils ont peur que les policiers virent complètement crackpot.
Oui, ils sont fortement soutenus.
Tu vois des trucs que les humains ne voient pas. Mmh. Que les humains évitent. Toi, tu es obligé de le faire parce que tu dis faut que justice soit rendue. Puis tu dois vivre avec ces images-là. Puis après ça, tu arrives à la maison le soir, tu n'as pas de bonne humeur parce que tu as vu des images épouvantables. Ta blonde te dit hey, tu n'as pas de l'air de bonne humeur aujourd'hui. T'sais. C'est tough. Hein,
moi, je l'ai vécu à la maison avec mon chum qui fait la même job que moi. Lui, il était sur la couverture comme journaliste du procès de la fillette de Granby.
Ah, mon Dieu.
C'est des images puis des histoires assez marquantes. Puis ils ont un soutien psychologique qui leur est proposé. Là, mais il arrivait une base à la maison. Là, parce que, un, il ne peut pas en parler.
Non,
il y a un secret professionnel. Il sait des choses que moi, je ne sais pas parce que je lis simplement les journaux, mais il y a des... Il y a de la non-publication beaucoup là, au travers de ce genre de procès-là. Fait qu'effectivement, ça doit être très, très difficile. Est-ce que tu sais, c'est sûr que vous, dans ce type de procès-là, c'était peut-être pas le cas, mais sais-tu si on offre une genre d'aide psychologique au jury quand besoin?
J'imagine, parce que de ce que je me souviens, la shérif est présente. Là,
elle est présente pour vous autres.
Oui, elle est présente. Elle vient voir là, si on a des besoins quelconques. Là.
Les versions de l'accusé et de la victime, est-ce que c'était très, très contradictoire? Comment
très contradictoire. Moi, de ce que j'ai vu, ce qui m'a frappé le plus, c'est le nombre de coups de feu qui s'était dit versus chaque personne, la manière qu'elle avait vu ça. Donc, il y avait une personne qui rentrait. Ah, moi, j'ai entendu 5 coups de feu. L'autre, il en avait 12. 5 à 12, il y a une différence.
Et mais de l'écho.
Oui, c'est ça. Ben, c'est ce qu'ils ont expliqué à un certain point, que c'était sûrement de l'écho, mais c'était 3 coups de feu. Il y avait juste 3 deuils. Fait que là, celui qui a entendu 12, là, son écho là, résonnait. Là, solide,
dépendant d'où est-ce qu'il était, il y avait leurs avis différents.
Mm-hmm. À partir de ce moment-là, j'ai une nouvelle vision face à ce qui peut se passer. Mm-hmm. J'ai eu un accident sur autoroute, on a arrêté. J'essaie de garder la tête très froide et d'essayer d'enregistrer le plus d'informations.
Mais c'est-tu dur, ça, de tu sais, un coup que tu t'en vas en délibération, là, et moi, là, ce qui ferait que j'ai l'impression que je ne serais pas une bonne jurée, là, c'est que je suis très, très « gut feeling ». Puis là, tu dois te fier aux faits qu'on te présente.
Oui.
Fait que c'est-tu difficile de... Parce que, tu sais, quand t'as les deux qui témoignent, là, mettons, la victime, puis voyons,
L'accusé.
L'accusé, merci, j'ai un blanc. Tu dois avoir un sentiment de qui dit la vérité. Tu sais, des fois, dans la façon dont les gens s'expriment, avec confiance, peu de confiance, c'est un feeling qui vient avec. Oui. Là. C'est-tu dur de séparer ces deux-là?
Ben, j'ai l'impression que ce feeling-là est quand même important parce que, tu sais, on analyse chaque personne qui nous parle. Oui. Puis j'ai bien l'impression, tu sais, tu le sens quand que le gars, il ment ou si c'est véridique. Mm-hmm. Et c'est sûr que nous, dans le procès, c'était flagrant, là. Qui était coupable, qui ne l'était pas. Parce que ça se tenait pas. Il avait déjà demandé où t'as eu ce gars-là. Oh, un gars en boss. J'ai rencontré sa rue, ouais, c'est ça. Oui. Tout le monde se promène sa rue et hey man, veux-tu un gars?
Tu veux-tu un gars?
C'est ça, ouais. Tu sais. Fait que c'était flou. Okay. Tu vois que le gars essayait de s'en sortir.
Fait que la délibération, elle était sur quoi? Si c'était prémédité?
Oui, la délibération, il y avait une question qui a fait en sorte que c'est là que ça a comme la chaîne a débarqué. C'était: est-ce que la personne avait l'intention de tuer? Est-ce que, si je vous pose cette question-là en ce moment, OK, le gars, il se lève le matin, il part avec un gun dans ses poches. Correct, il a le gun dans ses poches, il arrive, il se pogne avec ce gars-là, et il dit, avait-il l'intention de tuer? Est-ce qu'il s'est levé le matin en ayant l'intention de tuer? Sur quoi?
C'est ça que ça a débarqué.
C'est là que ça a débarqué. Parce que c'est là que, jusqu'à date, tout le monde s'entendait, ça allait bien. Là, on tombe en délibération. Puis là, cette question-là vient.
La foire a-t-il pogné?
Ben, c'est plus qu'à un moment donné, tu sais. Là, je vais utiliser mes mots, là, c'est cru, là. Mais maudite conne, comment ça, tu penses pas comme moi à ce moment-là?
Ouais, maintenant, tu viens fâché.
Ah, tu viens fâché, c'est émotif, là. Voyons, calvaire, tu vois les mêmes affaires que moi. Ouais. Mais en même temps, je comprenais parce
avec
que c'est
recul,
vrai.
Ouais.
Avec du recul, oui. C'est vrai qu'il n'y a personne. Sur quoi tu te fies? Il n'y a personne qui s'est levé le matin en se mettant un gun dans les poches, à moins de partir à la mosquée. T'sais, mais que ce gars-là, il ne s'est pas levé le matin en disant: hey, moi, je vais tuer quelqu'un ce soir, ou tentative de meurtre, je vais essayer de le tuer. Okay.
Puis là, est-ce qu'il y en a qui retardent le groupe, mettons?
Oui. Oui. C'est cette personne-là
que j'imagine déjà spoté. À un moment donné, toi, tu tripais à mort, mais il y en a qui voulaient retourner à la maison rapidement.
Oui.
Là.
Oui.
Fait que là, ça crée des froids, là.
Des tensions.
Oui, exactement. Surtout que, justement, quand la chaîne a débarqué de même, comme je disais, qu'on ne s'entendait pas, là, il y avait du monde que c'était l'anniversaire de son père, 50e anniversaire, genre, tu sais, cette fin de semaine-là. Ah. Fait que là, c'est sûr qu'il voulait sortir, mais en même temps, elle n'avait pas le choix, il fallait qu'elle soit là. Mais c'est là que, en même temps, nous autres, ça a duré 2 jours à délibération.
Okay.
Pas de téléphone, pas de TV, pas de journaux.
Est-ce que la couronne, la défense, le juge s'impatientait?
Non, ça a vraiment...
Eux
autres, ça fait partie. Ah oui,
c'est fait qu'il n'y a pas personne qui est allé vous voir, là, le juge, exemple, pour vous dire, là, êtes-vous correct? Y a-t-il quelque chose que vous auriez peut-être besoin comme information, comme directive pour vous enligner?
Non, mais on a fait revenir le juge, justement, parce que nous autres, ça fait, mettons, une journée et demie qu'on était là. On a redemandé d'avoir des explications, parce que nous, ils nous donnent des instructions à partir de la délibération. Voici tel point, tel point, tel point. Puis lui, c'est pas de nous amener vers une piste, c'est vraiment, vous devez faire ça. On avait une feuille qu'il fallait suivre. OK, si vous répondez ça, ça va là. Si vous répondez ça, fait que, tu sais, c'était une charte, un template.
OK, c'est très structuré.
Oui, c'est structuré.
Okay. Y avait-tu le président d'un jury? Ça existe-tu encore, ça?
Je crois que c'était le jury numéro 1 qui...
Fait qu'il y avait le chef dans votre gang, c'est le jury numéro 1.
Ouais, c'était pas nécessairement le meilleur, mais...
C'est lui qui rendait
c'était le ralentisseur.
C'est lui qui avait le signe du capitaine.
est-ce que le ton a comme monté, t'étais émotif juste en nous en parlant, ça devient-tu très, très animé? Y a-tu des insultes? Comment vous vous calmez après ça?
T'sais? Ouais, c'est sûr que t'as pas envie d'envoyer promener la personne avant toi parce qu'il faut que tu continues à être avec, mais... Tu le vois, là. T'sais, moi, surtout, moi, je suis très émotif.
Vous n'êtes plus amis, là.
Non, c'est ça, pas à ce moment-là. Vraiment pas. Puis, là, je me levais, je me promenais dans la salle. Je disais, ben voyons donc, tu sais. Je voyais bien, mais en même temps, le but, c'est qu'on s'entende tout le monde. Puis, c'est vraiment, c'est ça le principe du procès devant le jury. S'il y a un doute qui s'installe, c'est là que tu es obligé de déclarer non coupable.
Puis, comment vous avez vécu le moment où jury numéro 1, qu'on n'aime pas tant, a rendu la décision?
De retarder le groupe.
C'était-tu
à main levée à la fin, là, tu sais?
Ben, on fait une tour. Ouais, c'est carrément ça, tu sais. Bon, OK, toi, qu'est-ce que tu penses?
Il y a du monde qui abandonne, là.
Ben oui.
Vous n'avez pas sorti de pile ou face avant?
Non. Vraiment, à la fin, un moment donné, là, tu t'es rendu, mettons, 10 contre 2, là, tu sais.
T'es tanné.
Ah oui. Puis...
Fait que, tu sais, contrairement à ce qu'on a perçu tantôt dans ce que tu nous disais, il y a des tentatives d'influence, là.
Ben,
parce que sinon, tu t'en sors pas.
C'est sûr que le discours que tu as, c'est d'essayer d'influencer parce que toi, t'as une pensée.
Ouais, oui.
On est le même dans la société tout le temps.
Puis j'ai le goût de terminer en te demandant, c'était quoi l'ambiance de la salle de cours quand vous avez porté le verdict?
C'est lourd, surtout que c'est stressant pour nous, parce que là, on le sait, là, t'sais, là, c'est fini, on lui dit, là, t'sais, t'es coupable. Puis là, c'est veut pas, on voit les constables, ils partent, ils mettent les menottes, puis là, ils partent avec. Puis là, c'est fini, là, le juge nous parle, je me souviens plus c'est quoi qu'il nous disait, mais par la suite, le juge est venu nous rencontrer dans la salle pour nous dire, c'est bien ce que vous avez fait, vous avez redemandé des instructions. Et à ce point-là, il nous a dit, vous avez pris cette décision-là, c'était très bien parce que moi, si j'avais été juge seul, c'est ce que j'aurais fait grâce à ça.
Hmm.
Fait que j'ai aimé ça qu'ils viennent nous voir après pour nous dire ça, qu'on avait bien fait ça, puis c'était la bonne décision qu'on avait prise.
Puis l'accusé dans tout ça, est-ce que lui, il était en prison pendant tout le processus, puis on le montait là, de la cave du palais
je
de justice?
Je ne me souviens pas. Je ne pourrais pas dire.
Puis à la toute fin, quand vous l'avez déclaré coupable, qu'est-ce qui est arrivé?
Constable s'est levé. Bien, c'est sûr que les constables sont en arrière.
Ouais.
Ils vont le prendre, ils mettent les menottes. Ils partent avec, on attend qu'ils sortent de la salle. Puis là, le juge, ouais, on est libéré. Le juge nous donne ses instructions finales.
Hey, ça doit être spécial, ça, quand t'es libéré, tu dis bye à ta gang. C'est comme bon, ben.
Question bénézeuse, parce que des fois, ça arrive, ça. Est-ce que vous êtes organisé une activité de groupe après pour souper tout ensemble?
Non, pas du tout, mais on avait un petit groupe Messenger qui disait, puis tu sais, veux pas, son temps qui a été donné, ça a été vraiment plus longtemps après. Puis moi, j'ai même pas suivi, j'ai même pas essayé de suivre. Puis à un moment donné, j'ai reçu un message, genre le gars a pogné 3 ans et demi.
Ah,
ça a été fini.
Ça a été ça.
Ça a été ça.
Ouais. Hey, merci Luc d'avoir pris le temps
de venir nous voir. Ça fait plaisir. Quelle belle expérience.
C'est cool. Puis cool. Je veux te dire en passant, ta conjointe Audrey nous informe que c'est ta fête demain.
Oui.
Bon anniversaire.
Oui, demain, ça va faire 10 ans que j'ai 34 ans.
Tu vois, c'est bon, t'es comme moi, toi.
Ouais.
Tu vieillis pas. C'est juste qu'ils nous croient de moins en moins.
Oui, c'est ça, exactement. Surtout moi, avec ma coiffure extravagante.
Ah, mais c'est ça. Mais quand on n'a pas de cheveux, on reste jeune longtemps.
Oui, oui.
T'sais, on fige dans le temps.
Oui,
on est comme ça. Luc McMillan, ça a été un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience de jury dans un procès.
Plaisir partagé.
Et au plaisir de te rencontrer une prochaine fois, peut-être dans un match de décor hockey l'un contre l'autre.
Oui, monsieur.
Salut, mon ami.
Au revoir.
11h12, on s'arrête. Si vous avez quoi que ce soit, si vous voyez quoi que ce soit sur la route, les amis, c'est le 418-971-1021. 418-971-1021. Merci d'être nos yeux, nos oreilles. On revient. Toi, on vous jasait de ce qu'était l'expérience d'être juré dans un procès. Puis j'avais parlé du fait que nous, tu sais, tant aussi longtemps que tu l'as pas vécu, ce que c'était qu'un procès, les images que t'as d'un procès, c'est les images qui te parviennent d'Hollywood.
Ben oui.
C'est l'avocat du diable avec Keanu Reeves, puis l'autre acteur qui est super connu aussi. C'est la série Suits pour ce qui est des avocasseries au niveau
des entreprises.
Des entreprises, mais il y a un mot pour ça, là. Parlant de Suits, tu m'as dit qu'il y a une nouvelle série Suits qui est sortie.
Oui!
Harvey Specter, est-il encore dedans?
Il y a 3 épisodes dans lesquels il va être.
Ma préférée, Donna.
Non, c'est
Donna
ça.
Donna est mariable.
Ben oui, moi, Donna, je la marierais.
Harvey, il a dormi un peu là-dessus.
Oui, absolument, mais gars, ça a fini par se régler. Non, mais c'est comme les CSI puis tout ça. Là. Ils font, dans le fond, une version LA. Donc, c'est pas les mêmes acteurs. On est vraiment dans un autre cabinet d'avocats.
Ouais.
Je l'ai commencé en début de semaine. Dimanche sortait le premier épisode.
C'est le droit commercial à chercher.
Droit commercial, bon. Sortait le premier épisode, puis c'est drôle parce que c'est dur d'embarquer parce que là, tu compares. T'essaies de te dire, ah, ben OK, mais dans ce cabinet-là, c'est tel personnage qui prend place. Tu veux pas, tu sais. C'est plus dur d'embarquer. Puis le jeu aussi, qui est comme surjoué, je trouve, par rapport à ce qu'on a connu avec Suits de base, là, New York, là. Tu sais, où il y a beaucoup de tac au tac, c'est baveux, c'est... J'ai comme l'impression qu'ils pourront jamais atteindre le même niveau pour moi avec Suits LA. Mais je l'ai commencé, c'est intéressant, parce que si ça vous intéresse, c'est NBC ou CTV, là. C'est du côté anglophone, nous autres, on les enregistre sur la TV.
Il y avait
un
des personnages préférés. J'aimais bien Donna, là, mais...
Mais Lewis?
Ouais, Lewis, c'était quelque chose.
Mais non, mais lui, c'est cet acteur-là, là. C'est le personnage le plus développer. Si vous n'avez pas vu Suits en passant, c'est vraiment un incontournable.
Parce qu'au début, on le présente un peu comme un freako, là, il n'est pas super important pour la série. Puis rapidement, le réalisateur s'est dit, je tiens quelque chose avec ce personnage-là.
Sa mimique, sa façon de justement d'évoluer, de prendre place, c'est unique.
Puis il a commencé à prendre plus d'ampleur, puis c'est tellement que vers la fin, tu te dis, je l'aime plus que Harvey Specter.
Oui, puis tu l'haïs au début. Tu l'haïs, ça n'a pas de sens. Mais, mais chacun a vraiment sa place. Puis Suits avait perdu des plumes dans ses dernières saisons parce que Meghan Markle, est devenue une princesse. Là. Fait qu'elle ne pouvait plus jouer dans Suits. Fait que tu perds un peu le core de la série aussi avec le personnage principal qui est Mike, de qui tout part.
Ce qui est weird, c'est que tout le monde se sacrait de Mike puis tout le monde se sacrait de Meghan Markle. Là.
Ben, je te dirais que c'est l'impression que j'avais tout au long de la série,
Mais le début de l'histoire, c'était lui qui était comme un génie puis qui avait pas encore son barreau.
Ben, c'est le core de l'histoire, en fait.
Mais après ça, les autres acteurs étaient tellement plus forts que le personnage principal que l'histoire a changé du tout au tout.
Ouais, je pense que tout le monde le vit différemment, mais moi, tu vois, pour moi, Suits, c'est l'histoire de Mike et de Harvey. C'est la collaboration de ces deux-là. C'est le bromance qui se développe entre ces deux-là. C'est à quel point t'es prêt à tout faire pour sauver le cul, tu comprends, de ton meilleur chum, finalement. Là. Mais c'est vraiment une série à voir pour voir. Je l'ai recommencé deux fois, moi. J'ai vraiment trippé. Saut de télé qui est disponible. Écoute, c'est un épisode qui sort par semaine. Puis je suis pas tout à fait vendue encore, mais j'essaye. J'essaye fort.
Mais les CSI, c'était pas si pire.
Non, mais tu sais, c'était plus le principe du comparatif de ça change de ville, tu changes de gang. T'sais.
Moi, mon CSI préféré, c'est le CSI avec le roux, là, qui met, à chaque fois qu'il mettait ses lunettes, il se passait de
ça. Ça fait bien trop longtemps que j'ai pas écouté ça.
Ah ouais.
Ça fait vraiment des années. Là. Puis moi, j'ai pas suivi la série. De façon, je prenais des épisodes ici et là de temps en temps. Là. Fait que j'ai pas l'histoire complète. Je peux pas te soutenir à ce niveau-là.
Mais CSI, le roux, tu sais pas de qui je parle?
Non, j'ai aucune idée de qui tu parles.
Ben voyons, il mettait ses lunettes. C'est lui, là, regarde. Lui, là.
C'est tellement pas radiophonique ce qu'on fait. Là. Ah, okay, mais là, oui, le visage me dit quelque chose.
C'était CSI Miami.
Ouais.
Puis c'est David Carrizo qui faisait Horatio Caine.
Il y a NCIS aussi qui avait ce principe-là de changer de ville. Puis NCIS, j'ai écouté ça plus que CSI, tu vois.
OK. Mais CSI, là, avec le roux qui mettait ses lunettes, je me disais tout le temps, à chaque fois qu'il mettait ses lunettes, là, il les mettait comme sur le bout de son nez, puis après ça, il poussait avec son doigt. Là, tu savais qu'il y avait un fuck qui s'en venait. Là.
Ah ouais, c'est là que
vraiment.
Ça se passait.
Ah ouais, ça allait brasser en sacrifice.
Que je me lance, tu
c'est
vois.
C'est sûr. OK, hey, je te laisse là-dessus.
Oui, on se retrouve demain, nous autres.
On se retrouve demain. On vous laisse avec les trois accords grands champions. Puis après tout ça, ben, ce sera Pascal CV qui fera son arrivée dans Marceau le midi. Ça va brasser ce midi. Je vais recevoir un col bleu qui va nous donner sa version des faits concernant la grève actuellement qui a été suspendue pour ce qui est des cols bleus de Québec. À savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. On n'en a aucune idée, mais probablement que mon col bleu va être capable de nous dire qu'est-ce qui se passe avec nos cols bleus. Est-ce que les patinoires vont rouvrir? Est-ce que les games de hockey qui étaient prévus vont pouvoir bel et bien avoir lieu. Les loisirs aussi, les trucs artistiques, ceux qui vont faire de la nage à piscine. Mm-hmm, et tout
piscine,
ça. Ouais. Fait que, bref, restez là, les amis. Donc, les trois accords grands champions sur Boulevard.